mon propos est d'essayer de vous demander, de vous interroger vous-même sur qu'est-ce que ça pourrait être une histoire économique du cheval à l'échelle d'un des rares lieux en France où on s'est intéressé à l'élevage. Je dis d'ores et déjà parce que ça, c'est très important. Il faut partir de la différence qu'il y a entre la place du cheval dans les sociétés, on va dire, traditionnelles, parce que ça va jusqu'au début du XXe siècle, et les perspectives sont évidemment beaucoup plus longues en amont, et la situation actuelle. Aujourd'hui, il n'y a pas la présence familière qui fait qu'on peut s'intéresser immédiatement à ce type de problème. Le cheval est, on peut dire, presque invisible. Il est cantonné dans des secteurs tout à fait particuliers, comme les compétitions sportives, comme les courses, comme les Jeux olympiques. Et dans ces secteurs extrêmement spécialisés, n'en doutez pas, l'intérêt et la dimension économique sont fondamentaux. C'est absolument essentiel et ça mériterait peut-être que nos collègues là, en particulier en Normandie, où Armand Frémont avait un peu esquissé la question de l'élevage en Normandie dans ses travaux, reprennent ce problème. Par ailleurs, le cheval tient un poids considérable qui est aussi économique, qui est le loisir, l'économie des loisirs. Et c'est tout aussi une question. Alors, cela nous renvoie à des transformations qui n'ont pas été contrôlées ni par les éleveurs, ni par les utilisateurs, et qui remontent à la transformation industrielle et les transformations sociales urbaines, la mécanisation de tout, dans la fin du XIXe siècle et, bien entendu, plus encore rapidement au XXe siècle. Ce qui entraîne cet aspect invisibilité et ces transformations de tous ordres entraîne pas forcément la disparition. Le cheval demeure un élément symbolique tout à fait extraordinaire dans la civilisation de l'énergie fossile. C'est pas pour rien que Ferrari avait placé un cheval sur son moteur. Et par ailleurs, cela entraîne des interrogations sur les réoccupations rurales actuelles, dans lesquelles le cheval a un rôle, parce que toute une génération se remobilise. On le sait par le biais des grandes manifestations festives locales, on le sait par la réapparition d'une agriculture qui se veut plus biologique, plus écologique et qui, dans certains domaines, est extrêmement intéressante à suivre. Et on le sait par le fait que, dans de nombreuses initiatives, on voit un intérêt pour cet animal et sur sa réutilisation. J'ai été à Mâcon. Bien, à Mâcon, le ramassage scolaire des enfants le matin se fait en voiture à cheval. C'est tout à fait intéressant et ça suppose alors de réels investissements dans toutes les dimensions. Alors, à partir de là, je crois que je voudrais essayer, et je ne serai pas aussi précise et aussi minutieuse et avec autant de documentation statistique que l'a été Monique, je voudrais essayer de vous décliner en quelque sorte les problèmes et les interrogations principales de cette question équestre. La première chose, c'est que dès que vous vous y intéressez, vous voyez apparaître que l'on retrouve à tout moment un itinéraire qui vous oblige à vous intéresser aux questions de la production et de la consommation dans la diversité des usages. Dire le cheval, ça ne veut rien dire si l'on ne se tourne pas vers la multiplicité des occasions, en quelque sorte, d'utilisation. Et cette multiplicité d'occasions des utilisations va apparaître alors à tous les niveaux de l'analyse économique, depuis la macroéconomie de la production jusqu'à la microéconomie familiale où vous pouvez calculer souvent, et les archives le permettent quelquefois, de voir ce que ça pouvait coûter dans les dépenses des ménages, des familles, des grands représentants comme des petits de la société ancienne. Donc le point de vue d'historien du cheval est d'autant plus compliqué qu'il va immédiatement de la banalité au luxe. C'est un produit qui est d'autant plus difficile à saisir que vous le trouvez partout et d'autant plus difficile en quelque sorte à comprendre parce qu'il est au cœur de toute une série de stratégies de distinction dans la société traditionnelle, un peu moins dans la société actuelle, encore que ça l'a été pendant longtemps. Et donc une stratégie de possession individuelle qui entraîne de la dépense et de la consommation, et une stratégie encore beaucoup plus importante qui a complètement disparu, celle-là, c'est qu'elle est au cœur de tous les calculs stratégiques et politiques de l'économie militaire ancienne jusqu'à la Première Grande Guerre mondiale. Hein, c'est quelque chose qui mériterait d'ailleurs, pour le XIXe siècle, une véritable étude politique, parce que le lieu central de ce qui s'est passé autour du cheval au XIXe siècle dans tous les pays européens, ce sont les chambres où l'on accorde les crédits à l'agriculture. Et ça, il faudrait avoir une idée un peu plus intéressante que ce que j'ai pu rassembler dans ce domaine. Donc on va parallèlement à ce que j'essaye de vous souligner de l'importance économique, mais d'une économie qui n'est pas comprise uniquement dans la production, mais qui va jusqu'au secteur de la consommation, on peut s'étonner qu'il y ait eu un grand silence historiographique sur la question. Pour avoir lu la presque totalité de toutes les grandes thèses d'histoire rurale qui ont été produites, eh bien, j'ai quand même été obligé de reconnaître que ça n'intéressait vraiment pas grand monde. Les meilleurs spécialistes de l'agriculture, bien sûr, de temps en temps, ils évoquaient les attelages, mais ils les ont pratiquement laissés tomber. Et il a fallu quelques articles symboliques ou quelques interventions symboliques qui remobilisent les gens autour de ce questionnaire. Je voudrais quand même rendre hommage à Musset, René Musset, 1916, ancien chartiste, qui a écrit vraiment des pages qui restent absolument pas démodées sur la question. Seulement, c'est difficile. La thèse de Musset, thèse de l'école des chartes, n'a jamais été publiée. Il faut donc aller chercher les publications de Musset à travers des articles dispersés un peu partout. Je rendrai hommage à quelqu'un qui est mort en juin. C'est Jacques Mullier. Jacques Mullier, qui est un juriste économiste, qui a écrit la vraie première étude problématisée de l'élevage et des haras avec les chevaux du royaume, qui est une thèse de droit des années 60-70, et qui est le seul ouvrage, en fait, qui ouvrait à ces questions-là d'une manière tout à fait importante. Et, bien entendu, je ne vais pas oublier mon voisin de droite qui a discuté avec moi de la présence des chevaux dans les écuries des fermiers de l'Île-de-France quand il travaillait à la photocopieuse ou à la machine à l'IHMC, à l'Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine. Ça ne veut pas dire que nos anciens ne s'y intéressaient pas du tout. Goubert s'intéressait au cheval, mais il détestait les cavaliers. Et pourquoi? Parce qu'il était né à Saumur et qu'il n'a jamais réussi à avaler l'arrogance et la morgue des officiers de l'école de cavalerie. Donc 40 ans après, 50 ans après, Goubert me racontait ce type de souvenir qui est important à retenir dans les histoires, évidemment, de consommation. Mais si vous faites des tests, alors sur les tests, je les ai évoqués, mais si vous regardez les grandes productions d'histoire rurale, l'histoire de la France rurale, il n'y a pas plus de 5 pages consacrées au cheval et qui n'est vue que par deux problèmes essentiels sur toute la publication, les transports. On n'évoque même pas les problèmes que tu as évoqués, tu vois. Et la deuxième question qui apparaît alors au XIXe siècle, c'est l'hypophagie. Alors vous me demanderez certainement à la fin de ma présentation, si j'y arrive, qu'est-ce que je pense de l'hypophagie. Il y a une autre question aussi que je soulève immédiatement parce qu'elle est continuellement posée, c'est qu'est-ce que je pense de la monte en Amazon, mais ça n'intervient pas tout de suite directement dans l'exposé. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il est important de distinguer l'historiographie française d'histoire rurale et l'historiographie britannique. Et dans l'historiographie britannique, au contraire, il y a dans toute cette équipe qui a construit l'histoire agraire de l'Angleterre, qui a été dirigée par Madame Searsk et par Monsieur Everitt, c'est les Anglais ont eu le souci de donner une place à l'évolution de l'économie du cheval en Angleterre. Et surtout, ils n'en ont pas fait un élément isolé dans l'histoire économique traditionnelle, dans l'histoire économique, qu'ils l'ont présenté à travers les différents niveaux de fonctionnement de l'économie britannique dans leur histoire de l'agriculture, la propriété, la production. Enfin, je ne vais pas revenir sur ces tomes auxquels vous pouvez avoir accès. Il y a même des courbes du prix du cheval, ce que l'on peut chercher avec peine dans l'historiographie française. Donc, à partir de là, je crois que l'analyse anglaise montre bien qu'il peut être possible de faire une étude économique de l'élevage, de la production et de la demande, et aussi de voir comment les facteurs qui pèsent et qui organisent ce marché spécifique ont pesé sur l'évolution de la production et des consommations. Alors, à partir de ces constats historiographiques trop brefs, je voudrais reprendre trois types de questions. Le premier type de question, c'est de revenir sur l'utilité, c'est-à-dire à quoi servait le cheval comme producteur d'énergie et comment, en quelque sorte, il contribuait à être un des grands facteurs de la production industrielle et de la production agricole de l'économie et de l'économie traditionnelle. La seconde reprendra assez vite le problème de l'économie, de la place des chevaux dans l'économie générale, de l'élevage à l'économie paysanne, et essaiera de souligner quelques traits d'évolution entre le 18e et le 19e siècle. Le troisième, si le temps le permet, portera plutôt sur la mise en place des effets induits par cette production et par cette utilisation. Et ici, nous sommes bien obligés de quitter un instant le territoire agricole pour aller de plus en plus vers le territoire de la route et vers le territoire de la ville. Et c'est bien là un des aspects intéressants de la question. Alors, pour en terminer sur ces remarques générales, je crois qu'il faut se défaire aussi d'un certain type d'approche qui est l'approche par les spécialistes du cheval. Les spécialistes du cheval, dont les trois quarts ont été recrutés dans l'armée pour une part, ont fixé le questionnaire dans un certain type de perspective qui n'encourage pas, évidemment, les historiens à reprendre la question, parce qu'il est difficile de reprendre en quelque sorte une question économique ou une question générale à partir d'un point de vue qui est extrêmement spécialisé, qui est celui du cavalier de manège ou celui du spécialiste de l'élevage. La question avait été, et je vous renvoie ici à quelque chose de tout à fait important, avait été éclairée par un article fondamental qui est celui de Michel Bruguière, qui n'a jamais été publié parce que c'était une communication à la Société française des historiens économistes. Michel Bruguière, qui était un spécialiste du budget, un spécialiste de l'économie du 19e siècle, avait écrit un article intitulé « Le budget du cheval au 19e siècle ». Et dans cet article, auquel je vous renvoie, mais malheureusement vous ne le trouverez peut-être pas, je crois que c'était une production polycopiée que l'on peut peut-être retrouver à la bibliothèque d'histoire économique de Paris. parce qu'ils ont conservé la collection de ces bulletins. Burguière mettait bien en valeur, en quelque sorte, le questionnaire qu'il fallait appliquer à cette étude économique des chevaux, en insistant sur trois caractères que nous retiendrons présents à partir de maintenant. Premièrement, de tout temps, il semble bien que l'élevage du cheval ait été peu lucratif, parce que simplement, il entre dans une économie où le cheval de trait gagne sa nourriture en travaillant et rapporte plus, en quelque sorte, que le cheval de selle qu'il faut entretenir jusqu'à un âge qui lui permet de travailler. Cette première constatation permet de voir que le problème fondamental des chevaux est celui du rapport entre le travail et l'utilisation, les utilisations. La deuxième constatation que faisait Burguière, c'est que les chevaux ne sont pas du tout égaux. Ils sont totalement inégaux par leur qualité, par leur disposition, et ils entrent en concurrence dans cet effet général de quelle qualité on va accepter de produire, en quelque sorte, et quelle qualité vont produire les investissements. Et ça, c'est une question tout à fait importante, parce que derrière, il va y avoir le jeu crucial de l'encouragement. Comment va-t-on encourager tel ou tel type de production? Et c'est autour des choix d'encouragement que vont se jouer, en particulier au XVIIIe siècle en Angleterre et au XIXe siècle en France, les choix fondamentaux sur les croisements et sur la création, voire de nouvelles races, en particulier l'apparition des chevaux lourds, d'où nous sommes bien embarrassés aujourd'hui parce que nous ne savons plus quoi en faire du tout. Donc la question est aussi importante pour nos contemporains. Et enfin, troisièmement, le cheval est inégal, les chevaux sont inégaux entre eux, les chevaux ne sont pas égaux par rapport à leur capacité et par rapport à la demande, mais troisièmement, il y a dans cet enchevêtrement d'inégalités une concurrence qui va se traduire dans les régions et dans les positions, en quelque sorte, l'apparence, la spatialisation du cheval dans les principaux pays européens. Donc, c'est autour de ces questions que soulevait en 1984 Michel Bruguière que j'ai pensé à vous présenter ce que je vais faire ce soir. L'histoire économique donc du cheval est d'abord un chapitre de l'histoire de la production des énergies. Mais l'histoire de la production des énergies n'intéresse pas comme ça en tant que telle, et elle a peu en quelque sorte attiré les chercheurs, bien que Fernand Braudel l'avait mis dans son agenda au cœur de civilisation matérielle et capitaliste. C'était une question fondamentale. Et elle n'a pas entraîné de production extrêmement importante à l'échelle de l'Europe et à l'échelle des principaux pays européens, sauf celle de Paolo Malamina, dans un petit livre publié en 1995 qui s'appelle « Economia pre-industriale », qui a été publié à Milan en 1995, dans lequel il y a, c'est très rare, donc on peut l'utiliser, le problème de l'étude des forces animales par rapport à la production générale d'énergie. Dans cette perspective, les avantages de l'utilisation des chevaux sont continuellement comparés aux avantages que peuvent donner d'autres qualités d'équidés. Vous avez un animal qui mériterait à lui tout seul une séance, c'est le mulet, qui est en particulier une des ressources les plus intéressantes de la production agricole de la France du XVIIe, XVIIIe siècle, voire encore au XIXe siècle. Et c'est évidemment la concurrence des chevaux et des bovins. Et ça, c'est un des grands problèmes économiques qui est abordé très tôt. Je vais y revenir. Il faut distinguer dans cette perspective de la place du cheval dans une production d'énergie plusieurs caractères. Le premier, c'est le caractère d'investissement dans la valeur des bêtes. On peut accepter de produire de l'énergie, mais pourquoi ? Et comment ? Et avec quel type d'investissement pour la production, pour l'achat ? Comment va se calculer la durée de la mise au travail et le coût des entretiens, la nourriture et les frais de santé ? Il y a toute une induction de forces différentes qui pèsent sur ce secteur particulier de l'agriculture. Ce qui entraîne, c'est la deuxième remarque, quelque chose qui est généralement laissé de côté, mais qui est très important et qui ferait partie d'une étude spécifique si on avait les moyens de la lancer, c'est que dans cette production d'énergie intervient une rationalisation technologique qui est de très longue durée, qui est celle des équipements, et qui avait retenu, au tournant de l'apparition de l'école des annales, quelques grands débats. Le collier d'épaule, la ferrure, toutes ces questions-là avaient été en quelque sorte posées, mais n'avaient pas été replacées dans un système d'ensemble. On en était en quelque sorte à des approches distinctes. Donc, de ce point de vue-là, équiper les bêtes de la ferme, équiper les bêtes des entreprises de transport, équiper toutes ces entreprises est un facteur tout à fait important dont il faut reconnaître l'importance. Ce rapport va nous renvoyer donc au grand débat entre le bœuf et le cheval sur lequel je veux donner quelques éclaircissements. Pour le grand historien de l'agriculture britannique Lawrence White, l'aristocratisation du cheval de guerre et le coût de son équipement a été l'un des éléments qui a lancé ce débat. Le cheval de guerre à la fin du XIIIe siècle vaut à peu près 20 bœufs. Donc vous voyez comment un historien britannique a osé s'aventurer dans ce type de comparaison. Mais c'est vrai, le cheval de guerre est plus coûteux. Le cheval de guerre a un entraînement et une alimentation beaucoup plus coûteuse parce qu'il ne marche qu'à la voix. Donc le débat entre le cheval et le bœuf, c'est non seulement un débat sur l'emploi, c'est un débat sur tout ce qui entraîne la production d'énergie. Et l'on retient un certain nombre d'arguments sur la vitesse du travail, sur la puissance au kilogramme, sur l'endurance du cheval, etc. Et la question de sa fragilité, qui est évidemment un facteur considérable dans son emploi dans l'agriculture. Le cheval, le bœuf a donc ses défenseurs, il a ses contradicteurs. Et au XVIIIe siècle, l'économiste Cantillon, a utilisé le cheval par opposition au bœuf comme quelque chose qui était néfaste pour le développement de l'agriculture, parce qu'il fallait en quelque sorte plutôt encourager tout ce qui développait l'agriculture productive, mais ne pas encourager la production d'un animal qui avait des visées distinctives, qui avait des marchés tout à fait à part. Donc, si vous voulez retenir cette première opposition, vous pouvez y trouver une référence en quelque sorte calculée par rapport aux coûts qui ont été présentés par deux économistes du XVIIIe siècle, l'Italien Fabroni en 1780, qui s'inspire des recherches des Anglais et de calculateurs économistes anglais et qui opposent de manière tout à fait précise la production et l'utilisation de ces deux animaux. Ce qui est intéressant, et ça je l'ai découvert tout à fait récemment, c'est que les recherches des archéologues depuis l'Antiquité la plus haute jusqu'à la romanisation retrouvent exactement ce type de problème. Et ils ont, avec des arguments et avec des documentations complètement différentes, en particulier les documentations archéologiques dont nous ne bénéficions absolument pas pour la période moderne ou pour la période contemporaine. Il n'y a plus de cimetière de chevaux. Les maréchaux de l'armée française ne se font pas enterrer sur leurs chevaux dans des tombes particulièrement spectaculaires, alors que dans les sépultures des grandes nécropoles urbaines de l'Antiquité, il y a tout un problème sur cette présence des deux variétés sur lesquelles les archéologues s'interrogent. Donc, à travers cette première opposition, ce que l'on entrevoit aussi, c'est l'importance des cultures techniques, je l'ai déjà souligné, et c'est l'univers, en quelque sorte, de production de normes et de conventions que les sociétés secrètes pour expliquer l'une et l'autre des utilisations. De ce point de vue-là, l'histoire va nous mettre en présence de deux exigences. La première, c'est d'essayer d'évaluer les besoins. Et la seconde, c'est d'essayer de mesurer l'évolution des dynamismes qui transforment ces besoins. Évaluer les besoins, c'est extrêmement difficile, mais ça a suscité une production scientifique qui n'est pas négligeable et qui était au cœur des travaux sur la physique de la seconde moitié du XVIIe siècle en Europe. Les académies, et plus particulièrement l'Académie des sciences de Paris ou la Société royale de Londres, se sont affrontées pour essayer de savoir qu'est-ce qui coûtait le moins cher dans la production des énergies et comment on pouvait opposer la production d'énergie des chevaux avec la production d'énergie des hommes, qui reste quand même l'unité de base de la production des énergies dans la société ancienne. Et les travaux de l'Académie royale comme les travaux de la Société royale ont été en quelque sorte l'enjeu d'expériences qui ont été conduites sur le terrain avec la comparaison de combien pouvait tirer un cheval, combien pouvait tirer un homme, combien pouvait tirer un bœuf, etc. Ce qui suggérait l'existence d'une construction d'un système technique et de plusieurs adoptions, en quelque sorte, d'adaptation de ce système technique. Je ne reviens pas là-dessus, je l'ai un peu évoqué brièvement avec le collier, avec la ferrure. Entre le XVIe et le XIXe siècle, sur ce premier point de la contextualisation des besoins, il y a eu deux grandes mutations qui ont été fondamentales et qui sont avec de lourdes conséquences économiques. La première mutation, c'est celle des chevaux. Les chevaux de la fin du XIXe siècle et les chevaux du début du XVIe siècle ne sont pas si faciles que ça à comparer. Il y a eu des transformations considérables par l'alimentation, par les soins et par la demande, bien entendu, puisque de plus en plus, on a eu besoin de grands chevaux de trait pour les travaux agricoles, pour les transports ou pour quantité d'autres tâches. En même temps qu'il y a eu cette mutation entraînée par la demande, en quelque sorte, la demande porte aussi sur la mutation engendrée par la route et par l'accélération de la mobilité et la transformation des véhicules. J'y reviendrai brièvement, sans doute à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle. Le résultat de tout ça mériterait beaucoup plus de temps pour, en quelque sorte, les détailler. Certains les ont publiés, donc je peux me permettre de vous renvoyer mes propres travaux si ça ne vous ennuie pas. Mais ce qui compte, c'est la multiplication des chevaux entre le XVIe, dont on ne peut pas donner de chiffre de départ, et le XIXe siècle. Je ne retiens que les chiffres, en quelque sorte, de la période XVIIIe XIXe siècle et de la France, parce que c'est ceux qui sont le plus accessibles. Dans l'enquête des intendants de la fin du XVIIe siècle, on ne peut pas, j'ai essayé, faire une évaluation globale de cette présence. On n'y arrive pas, parce que les intendants ne donnent que des chiffres faux. La première évaluation qui est statistiquement valable est une reconstitution, c'est-à-dire c'est une évaluation à partir de la production qui a été faite par Lavoisier dans la richesse territoriale. C'est donc quelque chose de tout à fait fragile par rapport à une statistique de comptage telle que celle que vous les avez entendues tout à l'heure. La richesse territoriale de la France propose un chiffre peut-être vraisemblable de 1 781 000 chevaux. Lavoisier, n'hésitez pas, et je vous épargne les décimales, n'hésitez pas à désévaluer. Bon. La quasi-totalité de ces chevaux de 1770-1780 sont mobilisés par le travail agricole. 85% dans l'agriculture. Le reste regarde la ville et les transports et, à un moindre titre, dans la France des 27 millions d'habitants, vous voyez ce que ça peut représenter, l'armée qui rassemble dans ses formules les plus restreintes, hein, le cheval de cavalerie. Mais le cheval de guerre, c'est tout à fait autre chose que le cheval de cavalerie, parce que c'est une demande qui est faite pour les transports et qui est faite à l'occasion des opérations militaires. Donc, vous voyez la fragilité d'une statistique de ce type. Lavoisier, donc, nous propose un peu moins de 2 millions de chevaux à la fin de l'Ancien Régime, dans lesquels la majorité sont des chevaux de l'agriculture. La Révolution est obligée de faire des enquêtes. Et dans ces enquêtes, elle va proposer à son tour des évaluations. On en a une à partir de l'an 3, et comme on est en phase d'étiage, et comme les combats ont pris beaucoup de chevaux, comme les paysans en ont caché encore un petit peu plus, l'enquête nous fait tomber autour de 1 500 000. Et c'est un grand travail qui est totalement à reprendre et qui pourrait donner des résultats extrêmement intéressants. Alors à partir de là, on va voir, signe révélateur de l'intérêt que peut avoir une société à l'égard d'un type de production, on va voir les statistiques se multiplier. Il n'y a pas un économiste qui ne fasse son évaluation de la population des équidés dans la France du début du XIXe siècle. Le Montalivet, par exemple, en 1811-1812, propose un saut à 2 500 000 que l'on trouve dans plusieurs types d'enquêtes. Peuchet propose, lui, une version un peu plus pessimiste, avec moins de 2 millions de chevaux. Mais on est toujours à peu près, vous voyez, on ne varie pas dans le fond extrêmement par rapport à la statistique de départ de la fin du XVIIIe siècle. On est toujours dans les mêmes proportions du rapport de l'agriculture à 80-85%, mais l'on voit s'accroître. Alors, progressivement, dans toutes ces évaluations, on voit s'accroître la proportion des chevaux urbains et des chevaux de transport. La statistique générale agricole commence à donner des chiffres, et ça aussi, c'est un problème qui a été évoqué tout à l'heure, quelle fiabilité donner à la statistique générale agricole, mais on dispose à partir de 1840, et elle a été étudiée très soigneusement en 1850 par Michel de Monet, on dispose d'évaluations qui donnent en 1850, entre 1850 et 1855, 2 800 000, 3 200 000 chevaux. Vous voyez que c'est toujours un peu approximatif. Et on va atteindre le chiffre maximum de la présence des équidés sur le territoire national avec, non compris, les territoires annexés à l'Empire allemand, l'Alsace et la Lorraine, le chiffre de 3 500 000. Voilà l'apogée du cheval à la fin du XIXe siècle. Donc, le souci des statistiques a beaucoup varié. Et c'est pourquoi je ne peux dire que ce ne sont que des échelles assez approximatives. Certains se préoccupaient plus de mesurer les capacités d'énergie fournie, d'autres se souciaient beaucoup plus de comprendre les usages et les utilisations. Et à partir de là, on peut avoir tout un chapitre de l'analyse économique à reprendre. Le problème des transports, déjà suggéré, a été en quelque sorte accéléré par la technique routière, et ça fait partie des grandes transformations du XIXe siècle. Et l'on a un monde de véhicules et un monde de cavaliers qui est totalement différent à partir du XIXe siècle par rapport aux origines du XVIIe et bien entendu plus avant. La vitesse équestre devient quelque chose de plus contrôlé et qui va être mesuré et analysé scientifiquement, puisqu'avec les travaux de la chronophotographie, on va arriver à un moment où on comprendra beaucoup mieux cette adaptation des chevaux et de leur utilisation. Vous avez une mauvaise idée, mais une idée quand même tout le monde, de ce qui s'est passé dans la transformation de l'offre, en quelque sorte, du besoin d'énergie, la réponse aux besoins d'énergie, et dans la transformation qui arrive et qui aboutit au bouleversement de ce qui était l'échelle coutumière des vitesses humaines dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Là où on a vécu pendant des siècles au pas, à 5 km à l'heure, au maximum en courant pendant quelque temps 7 ou 8 km à l'heure, on est passé à des chevaux qui arrivent à tenir des distances de 15, 20 km. Et si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez en changer au fur et à mesure, donc vous pouvez multiplier en quelque sorte la vitesse. C'est quelque chose de tout à fait fondamental dans l'économie de l'utilisation, parce que il y a une nouvelle hiérarchisation compte tenu d'accès à l'utilisation des chevaux, compte tenu des moyens et compte tenu des besoins qui leur sont demandés et qui sont exigés. Voilà, en gros, la première dimension sur laquelle on peut commencer à raisonner, avec un appel pour conclure à la reprise des enquêtes anciennes, et plus particulièrement des enquêtes révolutionnaires et impériales. Celles-là, elles existent. Celles-là, elles ont des archives locales. Elles ont des matrices, en quelque sorte, qui ont été discutées dans les sociétés savantes comme dans les ministères. Et elles n'ont jamais été exploitées. Et on peut se demander pourquoi cette... Oui, mais Festi n'a fait qu'un résumé des résultats. C'est ça. Moi, quand j'ai publié l'article sur l'enquête de 1793-94... j'ai été rechercher les trucs de base, et c'est complètement impossible de le faire à un seul individu, parce que, évidemment, couvrir le territoire national, et c'est pourtant ce qu'il faudrait faire. Enfin, donc, c'est un appel à la transformation ici, un peu de la recherche. De même, la grande enquête sur le roulage, 1809-1811, c'est des milliers de pages. Personne n'y a jamais jeté un coup d'œil. Global, enfin, tout ça est à mettre dans la discussion. J'en arrive à ma deuxième présentation, le deuxième aspect de cette présentation. Vous avez vu l'importance du cheval moteur, vous avez commencé à comprendre que c'est pas un instrument très simple à utiliser. Alors, comment pouvait-on parler d'une économie rurale et quel est le rôle dans la production agricole et les échanges agricoles de cette économie équestre, de cette économie du cheval? Alors, je pense qu'il faut, à partir des enquêtes comme à partir des analyses locales, distinguer le fait qu'il y a des chevaux de la campagne, c'est-à-dire tout un cheptel qui est en permanence sur le terrain, dans les exploitations agricoles, avec sa hiérarchie, avec ses propres utilisations. Et à côté de ces chevaux de la campagne qui sont insérés dans le système agraire, dans le système de production, il y a des chevaux à la campagne qui sont des chevaux qui ne font que traverser, qui sont propriétés souvent des villes et qui sont en quelque sorte dans une autre dimension d'utilisation, dont l'un des aspects essentiels sur lequel il n'y a aucun travail est le commerce et l'échange des productions. Alors on a sur ces dans l'approche de ces cheptels des questions qu'on a le droit de poser pour comprendre pourquoi on ne sait si peu de choses et qu'on se mobilise aussi peu. Mullier, dans son travail sur les chevaux du royaume, qui porte essentiellement sur les haras, a mis en évidence deux demandes, en quelque sorte. La première, c'est celle du besoin pour la ville, la cour et l'armée de chevaux d'une extraordinaire qualité, mais aussi ne séparant pas la qualité esthétique de l'adaptation aux tâches. Et ça, c'est un problème fondamental qui a été celui des haras. Et la deuxième raison que mettait en valeur Mullier, c'est la place faible que la physiocratie et que toutes les grandes théories agronomiques ont attribué à l'élevage par rapport au grain. Il a publié un très bel article dont vous, certains, se rappellent ici peut-être le titre « Le blé se bat le nécessaire ». Donc, c'est une manière de voir en quelque sorte pourquoi les intérêts des historiens ont hésité entre ces deux pôles. Il y en a un autre, c'est l'incompréhension totale des historiens. Enfin, c'est, par exemple, une grande historienne du Limousin que vous identifierez dit que dans le Limousin, il n'y a pas de cheval. Et la raison, c'est parce que c'est un animal très fragile qui craint le froid. Comme vous le savez, le cheval a pris sa naissance dans les steppes de l'Asie la plus froide. Et quant au Limousin, c'est une des plus belles régions de production cavalière qui est recherchée dans toute l'Europe pour la qualité de ses montures. Alors là, vous êtes vraiment devant un océan d'incompréhension. On se demande, et vraisemblablement, c'est parce que il y a en quelque sorte essentiellement un refus de comprendre la place hiérarchisée que le cheval tient dans la société agricole. Alors cette place, vous allez la lire dans la répartition des économies et dans la répartition des chevaux dans la France agricole. Je ne vais pas détailler ça, je vais tout simplement vous redistribuer les cartes tirées de la statistique générale de la France et tirées de Musset qui travaillait sur la statistique générale de la France, qui vont vous faire apparaître les zones d'élevage et nous gagnerons ainsi un peu de temps. Vous avez là un, et il doit y en avoir à peu près assez. Et puis la deuxième, c'est la production de Michel de Monnet sur la statistique générale de la France. Alors, il y a dans ces cartes quelque chose qui est tout à fait fondamental, c'est qu'il y a, même si l'on pourrait préciser ce qui se passe en revenant à l'échelle cantonale ou à l'échelle communale, il y a en quelque sorte deux Frances qui apparaissent. La France des élevages et des utilisations accélérées au XIXe siècle des chevaux, avec une concentration de l'ouest au nord-est que tout le monde va voir apparaître immédiatement, sur lequel il est inutile de s'apesantir. Cette concentration c'est une concentration de densité de la présence et c'est une concentration en quelque sorte de correspondant à des différences d'appel, des différences de demande, puisque dans la France du Nord et du Nord-Est des élevages, comprenant de la Bretagne à la Lorraine, toutes ces régions qui se sont mobilisées dès le XVIIe, XVIIIe siècle sur la production. L'élevage est partout. Le cheval va trouver sa place à tous les niveaux, alors que dans la France du Sud, l'élevage n'est pas partout. L'élevage est concentré sur les grands axes routiers, il est concentré dans les zones urbaines et il est approprié à des travaux spécifiques. À partir de types régionaux, en quelque sorte, on peut voir dans les régions du Nord et de la grande culture une utilisation majoritaire avec des densités fortes de chevaux ruraux. Dans les zones de production, par exemple la Bretagne, on va voir une apparition de chevaux spécialisés par l'élevage pour la revente avec la recherche du profit. Dans le troisième type de région, si l'on descend vers le sud-est, le Massif central et les Alpes, on voit se différencier des zones de production comme le Limousin, avec des zones d'utilisation qui sont plutôt concentrées par des problèmes de transport ou par des problèmes d'urbanisation. Le quatrième facteur régional qu'il faut faire entrer dans cette géographie, c'est évidemment la présence des mulets et la présence des ânes qui sont des équidés tout à fait authentiques et qui, évidemment, ont joué un rôle considérable, très difficile à reconstituer, très difficile, en quelque sorte, à comprendre. Alors, dans l'économie du village, le cheval a plusieurs rôles. Il a un rôle extraordinaire de sociabilité. Le cheval sert de lien entre les échanges familiaux. Il a un rôle distinctif, mais il a évidemment tous ces liens que vous connaissez et qui sont tout à fait, par exemple, détaillés dans l'article agriculture et dans l'article labourage de l'encyclopédie sur la multiplicité de la demande dans les pays de la France rurale, dans les campagnes de la France rurale. Si l'on veut en comprendre en quelque sorte la répartition par rapport à la demande locale, c'est très difficile de trouver des textes. Il y en a un qui est tout à fait fascinant et que tout le monde connaît ici, c'est le journal de Goubertville. Le journal de Goubertville va détailler de façon absolument extraordinaire, et à mon sens, je ne connais pas d'autres sources de ce type avant le milieu du XIXe siècle, les différentes utilisations du cheval. Calculé sur les 2063 occurrences d'apparition du thème équestre dans les 15 années 1549-1562 du journal de Goubertville, vous voyez apparaître en tête l'utilisation pour tous les types de travaux agricoles. Labourage, mise en culture, mais aussi, beaucoup plus intéressant, le transport et l'utilisation pour le déplacement des récoltes, le déplacement des matériaux de construction qui est absolument fantastique dans le journal de Goubertville. La deuxième série d'occurrences, c'est ce que ça coûte. Et Goubertville calcule très précisément les différents coûts entretenus par ces différents types de demandes. La troisième catégorie d'occurrence, c'est la variété des usages spécifiques, particuliers, le cavalier, qui n'est pas seulement un homme de la maison de Goubertville, mais les échanges qui sont entretenus par les usages des chevaux à l'intérieur de la société rurale. On se prête les chevaux, on va les confier pendant un certain temps aux uns et aux autres. C'est donc un lien social qui est créé ici et qui apparaît très nettement dans ce grand texte. La quatrième catégorie d'occurrence, c'est l'élevage. Goubertville est un éleveur, et c'est un éleveur d'un type tout à fait particulier, parce qu'il produit des chevaux quasiment sauvages dans des zones qui sont absolument pas aménagées, qui sont des zones partiellement boisées, partiellement marécageuses. Et c'est un élevage tout à fait extensif qui donne lieu à des pratiques en quelque sorte de rattrapage, de surveillance qui sont tout à fait que l'on va retrouver dans les élevages extensifs des pays producteurs de l'Ouest américain ou de l'Argentine ou des choses de ce genre. Certaines occurrences sont tout à fait intéressantes. Et il y a quelque chose qui m'a surpris, c'est l'absence de la chasse. Il n'y a pas de chasse à cours en Normandie, autour de Cherbourg et dans ces zones-là. Les quelques occurrences qui apparaissent sont des occurrences faites par des étrangers. Alors voilà une manière, en quelque sorte, de regarder les différents usages dans la France rurale. Au XIXe siècle, il y a un autre texte qui permet cela, mais d'une manière un peu différente, parce qu'il est dicté par la volonté agronomique. C'est les différents types de production de Mathieu de Dombasle. Mathieu de Dombasle est certainement connu par vous tous comme un des grands artisans de la transformation mécanicienne de l'agriculture du XIXe siècle. Et en même temps, il a publié de nombreux textes sur l'adaptation de ce que devrait être l'utilisation des équidés dans la nouvelle agriculture par rapport aux machines. Ce qui l'amène à défendre plusieurs points de vue. Le premier point de vue est très important pour vous et pour nous, c'est le développement du cheval lourd. Et c'est le développement des races qui accroissent la production d'énergie et qui facilite en quelque sorte une utilisation de plus en plus rationalisée du travail mécanique agricole. La deuxième chose, c'est cette mécanisation du matériel agricole et ce que ça entraîne pour le dressage des chevaux et leur formation. Ce n'est plus du tout le même type d'utilisation que dans les paris précédents. Ici, nous voyons donc le cheval apparaître au XIXe siècle, dans ce contexte lorrain, dans ce contexte de la France de l'Est, comme un instrument tout à fait majeur de la transformation du système agricole, puisque cela entraîne des conséquences sur le travail, parce que cela entraîne tout un tas de mobilisations et de transformations de la société agraire, et même le cercle vertueux du travail accru par les chevaux, pour les chevaux, va entraîner le succès des plantes fourragères, le succès de toute une nouvelle agriculture sur laquelle vous en savez évidemment beaucoup plus que moi. Donc de ce point de vue-là, on pourrait suivre cette piste autour de la généralisation d'un certain nombre de pratiques. Le plus important, ça serait d'avoir une véritable histoire de l'élevage au plan local et de se retrouver dans cette mosaïque des productions qui fait que l'on est obligé en quelque sorte de considérer comme établi la géographie entre les pays naisseurs, exemple la Bretagne, qui produit à la fin du XVIIIe siècle 15 à 20 000 poulains qui sont à 2-3 ans répandus dans toutes les contrées avoisineurs. Deuxième catégorie, les pays éleveurs qui vous transforment un cheval breton en pur sang anglais. C'est presque pas tout à fait possible, mais presque. Mais c'est absolument extraordinaire ce que fait un éleveur sur les chevaux qu'il a achetés. Et quand il a transformé les bidets achetés à Goubertville, il va les vendre sur le marché parisien au grand écuyer ou au colonel des régiments à des prix incroyables. Donc c'est cette transformation technique, c'est ce jeu qui se joue du passage de la production naisseur à la transformation par les éleveurs qui ont donné lieu à la fabrication des races, lesquelles n'existent pas sauf dans la demande. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une race pour les gens du 18e ou du début du 19e siècle? C'est la catégorisation de certaines qualités du cheval qui correspondent à une demande. Et c'est ça que les studbooks vont, à l'exemple de l'Angleterre, transformer en code avec la codification des caractéristiques qui font que l'on va entrer dans telle ou telle catégorie. Et les studbooks, le premier studbook, le studbook anglais, est de 1791. Il est imité en Angleterre par le studbook du pur sang en 1830 et quelques. Et c'est après, de 1833 à 1919, que vont s'échelonner tous les studbooks qui vont, en quelque sorte, rassembler ce rapport entre les besoins et la demande, les besoins, la demande et la production qui va être reconnue. Et il y a même certains studbooks qui vont être établis de façon totalement artificielle. Elles ont fait l'objet d'une étude magnifique, c'est par Bernadette Lizet, une anthropologue, le cheval noir du Nivernais. C'est une bête qui n'existait absolument pas dans les écuries et dans les pâturages d'avant la Révolution française. Au XIXe siècle, un certain nombre d'aristocrates se sont dit « Mais on commence à demander du cheval lourd, ce cheval lourd va... » Et ils ont produit un concurrent, un autre cheval qui n'existait guère sous les formes où nous avons pris l'habitude de le reconnaître, qui est le percheron. Le percheron est gris et blanc, le cheval du Nivernais sera noir. Mais ce sera... une lutte de concurrence comme ça entre les marchés tout à fait intéressante, mais celle-ci a été bien mise en valeur et bien étudiée. Donc, à la fin du 19e siècle, vous avez évidemment, à travers la hiérarchie des studbooks, donc les prises de position des éleveurs et des agronomes, les prises de position des haras, vous avez toute une hiérarchie de la production française qui est masquée dans ces cartes que je vous ai fait circuler, que je voulais distribuer et que vous pourrez regarder d'un peu plus près. Le 19e siècle se caractérise donc par une double démarche qui va unir toute une catégorisation sociale imprécise mais qui est commode. C'est la France des notables. La France des notables, elle est composée de producteurs, paysans enrichis, spécialisés dans l'élevage, officiers des haras et officiers de l'armée, qui sont, eux, tout à fait des agents extrêmement actifs de cette transformation, parce que c'est eux qui, sur le terrain, vont poser la demande de prêt aux éleveurs. Et c'est en particulier une des caractéristiques de la remonte, c'est d'avoir ces réseaux d'offres et d'aller à la ferme essayer de voir ce que l'on va repérer, etc. C'est aussi, la remonte est un des plus grands sujets d'histoire sociale et économique qui reste à écrire, dont il y a les archives. Elles sont en partie à Vincennes, elles sont en partie dans les départements, et en plus elles vous donnent la réalité par les recensements pour la remonte qui deviennent, après les années 1870-80, réguliers, la composition exacte du cheptel. Ça n'a jamais retenu l'attention de personne. En 1914, vous y trouverez aussi les vélocipèdes et les motocyclettes, et même les voitures. Et en 1939, ça existe encore. Donc, c'est une source de longue durée. Alors, il y a vraiment une démarche qui unit ces différentes catégories sociales auxquelles il faut ajouter les sociétés d'agriculture locale, les sociétés savantes, toute une catégorie d'intellectuels de terrain qui sont tout à fait intéressants et qui, en quelque sorte, sont des partisans de l'amélioration du cheptel, avec quelque chose de tout à fait nouveau dans la tradition française par rapport à ce qu'était l'agronomie d'Ancien Régime, c'est l'intérêt pour les juments. L'agronomie des haras, c'est pendant longtemps l'intérêt pour les étalons. Mais avec l'apparition des studbooks, on est obligé de prendre en compte l'importance de la mère dans le rôle de la reproduction des caractères à transmettre et des caractères acquis. Donc c'est la joie comme ça des grands producteurs avec quelques étalonnières qui sont renommées. Et en même temps alors, c'est quelque chose qu'il faut aussi relier, mais je voudrais quand même parler un tout petit peu des métiers induits, donc je ne dépeuple pas, c'est l'intensification du sentiment régional de la production. Ça, c'est quelque chose de tout à fait important, comment toute une des caractéristiques, autant en Angleterre qu'en France et dans d'autres régions européennes, c'est une des manifestations, en quelque sorte, de la régionalisation qui est porteuse de ces promotions de l'économie, de ces promotions de l'agriculture. On aboutirait donc à la possibilité de faire une histoire un peu plus précise des échanges, de la mobilité, en connaissant le marché des chevaux, en essayant de le reconstituer, en essayant de suivre le problème des marchands, mais là encore, il n'y a pas d'étude du commerce. Il n'y a pas d'étude des maquignons. On se contente de répéter quelques grands poncifs. Le maquignon est un voleur, le maquignon est un trompeur, le maquignon essaie de truander son client. En réalité, c'est quelque chose de tout à fait fondamental comme profession. Puisque le maquignon est un redistributeur et un intermédiaire. Donc son rôle est de tâter en quelque sorte les exigences de son client, et ça demande une connaissance absolument affinée des bêtes et une maîtrise de la ruse dans la discussion qui est tout à fait étonnante, enfin, et qui n'est pas du tout du côté du vol ou du côté de la tromperie. C'est difficile de reconstituer ce commerce. À Paris, on a quelques petits moyens. Par exemple, moi, j'ai utilisé les affiches et les petites annonces qui donnent des tas d'interrogations comme ça sur ce que l'on demande. Mais le marché parisien est un marché tout à fait trompeur parce que, outre le fait que les archives aient brûlé en 1871, elles avaient été toutes conservées, mais elles ont disparu dans l'incendie de la Commune. Le marché parisien est dominé par la tutelle du grand écuyer. Tous les chevaux sont, avant d'être mis en vente librement, contrôlés par les employés de la grande écurie, ce qui limite considérablement, en quelque sorte, les résultats que l'on peut appréhender par quelques témoignages sur ce sujet. Donc voilà pour ces grands traits de la présence, ces grands traits de l'utilisation. Je me suis posé une dernière question, c'est est-ce qu'on pourrait faire une histoire des prix des chevaux ? L'histoire des prix n'est pas à la mode. Qui en fait ici ?
Un étudiant qui n'est pas là.
Il y en a un. Un sur 15. C'est une bonne proportion. Bon. Et je crois que ça serait très intéressant d'avoir dans le long terme un chantier ouvert sur l'histoire des prix des animaux et plus particulièrement des chevaux. La difficulté est évidemment, comme toujours, un problème de source. Mais si on ne les cherche jamais, on ne les trouvera bien évidemment jamais. Alors, il y a des catégories d'utilisateurs qui produisent les sources. Il y a d'abord un grand utilisateur dans le long terme, c'est l'armée. Depuis le XVIe jusqu'au XIXe siècle, vous avez les achats qui déterminent les prix, qui sont les achats de l'armée. D'études là-dessus, il n'y en a pas. Deuxième type de sources qui ont été utilisées avec les fermiers de France en partie, mais qui pourrait être étendu à d'autres catégories régionales et à d'autres catégories de paysans, c'est les inventaires après décès. Malgré tout, il y en a quand même suffisamment. Troisième type de source, mais moi je n'en connais pas en France, je sais qu'il y en a eu en Dauphiné, c'est les marchés et les foires. En Angleterre, c'est une source générale. Et il y a eu une étude de Peter Edwards sur les marchés et les foires aux chevaux du 15e au 17e siècle, qui est tout à fait étonnante et à connaître, mais je doute que l'on trouve des sources équivalentes. Alors, à partir de ces types de sources, on pourrait évidemment envisager les prix selon les modes de consommation. Puisque les achats de la cour portent les prix à un niveau tellement élevé qu'aucun particulier ne peut se payer un cheval du prix de la grande écurie, ou même pour les carrosses du roi, parce que les chevaux des carrosses sont extrêmement sélectionnés, etc. Par ailleurs, on pourrait généraliser en quelque sorte ces hiérarchies de consommation et aboutir à une histoire des prix assez intéressante. Ce qui m'amène aux dernières petites remarques que je voulais vous faire. Dans ces transformations économiques, il y a quelque chose qui est tout à fait caractéristique d'un type de circuit économique. J'ai essayé d'en rassembler les différents éléments. Je vous les distribue. Tiens, je fais circuler. C'est entre la production et la consommation les différents types de questions qu'un spécialiste de l'économie rurale et de l'économie urbaine peut en quelque sorte se poser des différentes interférences. J'ai plus beaucoup de temps, non? Oui. Non. Bon. 5-10 minutes. Donc, vous les avez sous les yeux. Vous poserez les questions, vous les poserez à vous-même. Ceci, pour moi, a un but. C'est de montrer les effets induits, c'est-à-dire à partir de quel moment on passe de ce qui paraît évident, c'est-à-dire une histoire de l'animal, une histoire de ses utilisations agricoles, une histoire de ses utilisations. Je crois qu'il y a d'autres effets induits qui sont absolument extraordinaires. Dans le cas de l'élevage le plus banal, ces chevaux coûtent peu, on dépense le moins possible pour essayer d'en obtenir le plus. C'est pas là qu'il faut aller chercher en quelque sorte ce type de renseignement. Mais dès que vous mettez le nez dans des archives sur les fermes, sur les exploitations, vous voyez apparaître l'importance du matériel. Et là, vous entrez dans un domaine qui, évidemment, mérite quelques approfondissements, parce qu'il unit tout un ensemble de métiers, des métiers du bois aux métiers du fer, des métiers du fer aux métiers du cuir, et dans cette perspective-là, vous avez un chapitre de l'artisanat rural qui est considérable. La seule étude qui existe en France dans cette perspective-là, elle a été menée par Belmont dans le Dauphiné, encore qu'il n'ait pas cherché à identifier le secteur dans son unité, dans son uniformité ou sa spécificité. Mais il nous donne des choses tout à fait importantes qu'on ne peut pas généraliser à l'ensemble du territoire du royaume ou du territoire national, c'est la place de deux catégories d'artisans qui sont dans toutes les communes et qui jouent un rôle absolument considérable. Alors, la première catégorie, ce sont les charrons menuisiers qui composent dans la population artisanale du Dauphiné du 18e au 19e siècle à peu près 30% des artisans. Et la deuxième catégorie, plus restreinte, parce que c'est une catégorie plus d'élite en quelque sorte, mais qui est très importante dans les villages, et ce nombre s'accroît, ce sont les maréchaux ferrants. Voilà un métier qui mérite son historien, tant en France qu'en Angleterre, parce que on peut, en quelque sorte, y suivre le développement d'un certain type d'adaptation des technologies et de la réponse artisanale à des besoins suscités par la transformation agricole de place en place. Les contrats, par exemple, qui sont passés à Choisy-Aubeux pour l'entretien de la maréchalerie sont considérables. Ils ont été publiés par Jean-Marc. Le bourrelier de Choisy-Aubeux coûtait 60 livres par an en 1660. Le maréchal Ferrand, 160 livres, ce qui est quand même non négligeable dans la comptabilité de ces grandes exploitations. Donc on a un atelier qui est ouvert et qui a été abordé dans l'histoire de l'Angleterre rurale au tome 6, dans les pages 400 et suivantes, de façon beaucoup plus précise que ce que je rapporte ici. Si vous franchissez une autre étape, et je vais m'arrêter là, vous avez deux domaines où la liaison des effets induits avec la production et la demande équestre sont particulièrement importants. Le premier domaine, c'est celui de tout ce qui concerne l'industrie du transport. On va, comme tout à l'heure on vous a présenté un master sur les postes, vous en avez là un des exemples. Mais ce n'est qu'un des exemples, parce que tous les autres exemples, il faut aller les chercher du côté du grand commerce, du côté de la redistribution commerciale. Et comme les prophètes avaient annoncé, avec l'apparition du chemin de fer, que le cheval allait disparaître dans les années 1850, c'est la confirmation calculée économiquement que l'on pourrait faire que le chemin de fer a produit du cheval plutôt qu'il n'en a fait disparaître. Donc le problème des compagnies de transport, du commerce, de l'entretien et de la construction est absolument fondamental. Il est encore plus fondamental en ville. Et là, il y a les archives. Par exemple, la Compagnie Générale des Transports de Paris a des archives absolument considérables sur toutes les questions que j'ai évoquées trop rapidement. Si l'on suit le raisonnement, on pourrait avoir, mais je crois qu'il y en a un de vous qui s'intéresse à l'économie des courses, on pourrait reparler de l'économie des courses qui est tout à fait fondamentale. Le deuxième secteur qui est à retrouver, c'est l'armée. Mais l'armée, non pas dans ses utilisations tactiques et dans ses utilisations militaires, mais l'armée dans sa fonction d'agent de réflexion sur les utilisations économiques et sur les utilisations, en quelque sorte, dans tous les domaines qui ont été et proposés. Et l'un des seuls qui se soit intéressé à la question, c'est l'historien économiste Bayrock. Bayrock a consacré un chapitre à ce que produisait le fer à cheval dans la production métallurgique. Alors, pardonnez-moi, mais il faut être précis, un fer à cheval, ça pèse 400 grammes. 400 grammes de fer ouvré par pied, 2 kilos par cheval. Dans la cavalerie française de 1789, c'est 40 000 fois 2 kilos de fer ouvré. Donc, là, vous saisissez quelque chose de tout à fait important dans la transformation économique. Sur ces 40 000, 80 000 kilos de fer vont se multiplier tous les mois par le changement de fer mensuel ou tous les deux mois si l'officier de compagnie est radin et s'il n'a pas peur de voir les pieds s'abîmer. Donc vous entrez là dans une variation qui est absolument un calcul de variation et un calcul de consommation économique qui est tout à fait fondamental. Vous pouvez me dire, votre calcul, il est troublé parce qu'on réemploie les fers. Oui, sauf quand on les perd. Et l'armée perd beaucoup de fer, beaucoup plus qu'elle n'en utilise de nouveau. Alors voilà un type de question que l'on pourrait continuer à analyser. Je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà été trop long. Il y a tout un chapitre qu'il faudrait consacrer au progrès technique et au rôle de la voiture hippomobile, parce que l'une des grandes révolutions du XVIIIe siècle, c'est d'avoir, en quelque sorte, placé les cavaliers derrière les chevaux et non plus dessus. Et ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire dans toutes les conséquences possibles. Mais bon, le temps m'échappe. Alors voilà, en gros, quelques suggestions pour une histoire économique du cheval. Premièrement, il faut construire la production structurellement et conjoncturellement d'une filière économique. Et ça, c'est tout à fait majeur à partir d'un produit agricole. Deuxièmement, cette filière économique induit des effets spécifiques de consommation, tant du point de vue de la société que du point de vue même du système agraire. C'est la transformation même de la production. Et troisièmement, elle a ses acteurs particuliers, elle a ses intermédiaires et elle a ses agents qui sont en quelque sorte responsables de toutes ces transformations et qui constituent autant de catégories à la fois rurales et urbaines. Mais là, on est vraiment dans une civilisation où c'est pas séparable, on le sait très bien, et ça reste, je crois, à analyser un peu plus profondément et moins généralement que je n'ai pu le faire. Voilà, quelques idées.